Prise de conscience, c'est un moment important, puisque quand même dans la question de l'enseignement, de la transmission, c'est une étape de royaumont qui peut-être finit une époque et va commencer une autre.
Oui, alors effectivement, bon, la référence est assez claire, puisqu'effectivement, ça faisait 11 ans que j'habitais à Berkeley, que j'y travaillais, puisque j'enseignais à l'Université de Californie, là-bas. Et j'enclenche un départ. Effectivement, je n'étais jamais venu à Royaumont comme enseignant. Là, j'ai été invité. Et puis, après cela, je retourne à Berkeley pour 3 mois. Et je vais commencer avec un nouveau poste d'enseignant à Graz, à l'université de Graz, en Autriche.
Et quelle est la caractéristique que l'on a comme impression de transmission par rapport à ce qu'on a un cursus au cours de l'année? Et là, une rencontre très, très courte, en fait, avec des compositeurs qui ont déjà peut-être affirmé leur style ou qui commencent à l'affirmer.
Oui, en tout cas, bon, je pense pas que les compositeurs changent, non, enfin, les jeunes compositeurs qui ont été sélectionnés au départ pour cette académie, soient bien différents de ceux que je peux rencontrer en cours d'année ou dans d'autres académies, en dehors de tout, qu'ils ont tous un très bon niveau. Non, je pense que ce qui est essentiel, c'est le fait effectivement que je sois obligé de transmettre ce que j'ai à leur dire en très peu de temps. Et ça, c'est un exercice qui est délicat pour un enseignant, parce qu'il faut dire le plus de choses possible, mais jamais de manière brutale. Il faut proposer un certain nombre de solutions rapidement et très, très créatif, en fait, sans être envahissant par rapport à leurs pensées, toujours respectueux. C'est un exercice difficile parce que on est tenté de faire passer le plus de choses possible en tant qu'enseignant, mais en même temps dans le respect de ce que la pièce qu'ils ont écrite nous dit. Voilà.
Et c'est plus dans le domaine de la réalisation que l'on intervient ou dans l'écriture elle-même?
Alors, l'académie s'est faite en 2 semaines, cette fois. Une première semaine de rendez-vous individuel, essentiellement, où on voit les problèmes de notation symbolique pour la partition, où on discute de certaines solutions qui ont été envisagées par le compositeur, mais peut-être pas menées à bien. Ça arrive parfois, les jeunes compositeurs ont beaucoup d'idées, souvent bonnes, mais parfois n'osent pas aller jusqu'au bout. Donc, mon rôle est celui de mon collègue Marc Barden cette année, c'était d'avoir de bonnes intuitions et d'essayer de faire développer ce qui est le plus significatif et personnel dans les pièces existantes. Ça, c'est pour la première partie qui se fait uniquement, je dirais, avec un rapport à la partition et à l'écriture qui est aussi lié au lieu dans lequel nous vivons pendant 15 jours. Et puis, il y a une deuxième partie de l'académie qui a commencé avec la venue des musiciens, enfin des interprètes, que ce soit le chœur des Métaboles, le quatuor Mivos ou bien Florentin Ginot, et qui est contrebassiste. Et à partir de là, commence le moment de l'expérimentation, je dirais, dans le concret de la musique. Et là, un certain nombre de vérités apparaissent qui viennent le plus souvent, enfin moi j'espère, confirmer les intuitions qui ont été qui sont apparues dans la première semaine, ou bien parfois les contredire. Et à ce moment-là, on doit tous être créatifs, et bien sûr le compositeur, celui qui a écrit la musique, mais aussi les enseignants, parce que les répétitions réservent toujours des surprises et qu'il faut être créatif avec les surprises qui surviennent. Et évidemment, à la fin, on a un vrai concert avec aussi des surprises, mais souvent une manière beaucoup plus affinée et affirmée de transmettre, parce que l'expérience musicale a été partagée aussi bien par les enseignants que par les interprètes et bien sûr les compositeurs.
Et là, vous avez la technique des cordes. Est-ce que vous êtes intervenu sur les modes de jeu ou est-ce qu'il y a une rationalisation que vous sentez dans les modes de jeu qui peuvent faciliter bien sûr la lecture ou l'interprétation par les interprètes du projet du compositeur?
Alors, évidemment, il y a une interaction avec les musiciens, mais elle doit se faire, enfin, c'est ce que je pense, toujours en lien avec le contexte musical qui a été défini par le compositeur. Sinon, ce serait une sorte de laboratoire sans que ce soit véritablement une expérience musicale. Non, il faut toujours partir de la partition, des intentions, et les clarifier, parce que les intentions comme des compositeurs doivent être claires, même si elles sont mystérieuses, elles doivent paradoxalement revêtir une certaine clarté, sans quoi on n'est pas dans quelque chose d'ambigu. Alors, ce qui est ambigu est intéressant, mais dans quelque chose de flou, ce qui est beaucoup moins intéressant. Donc il faut faire en sorte de définir au plus près de l'intention du compositeur, et cela se fait effectivement avec un certain nombre d'expérimentations que seuls les interprètes peuvent incarner. Voilà.
Et la question qui vient aussi, ils viennent de différentes régions, de différents pays, différents contextes. est-ce que ces contextes interviennent ou influencent leur travail? Est-ce que vous sentez des différences liées au contexte ou au pays dans lequel ils ont travaillé précédemment?
Oui, alors il peut, bien sûr, il y a des différences de style, ça c'est absolument normal. Aussi des différences quant à l'expérience dans la notation, car ceux qui travaillent dans les institutions en lien permanent avec des musiciens, notamment dans les conservatoires, ont plus d'expérience et osent davantage de choses parce que, là encore, leur expérience musicale n'est pas uniquement conceptuelle, elle est aussi liée à la pratique et à l'échange avec les instrumentistes. Pour ceux qui naviguent, je dirais, hors institution pendant l'année, c'est plus délicat parce que là, ils ont en face d'eux des musiciens qui sont très chevronnés, qui sont très ouverts et parfois, il se trouve qu'ils sont un peu surpris par l'audace des musiciens pour qui ils écrivent. Et ça leur arrive d'écrire des choses plus timides que ce qu'ils auraient pu écrire. Et là, ce qui est très agréable à voir, c'est que avec la rencontre, par exemple, avec le chœur des Métaboles, il était évident que certains avaient une vision un peu conservatrice de ce que c'est qu'un chœur, et ils s'aperçoivent au contraire que le chœur des Métaboles a une tendance expérimentale également, et qu'ils peuvent s'en donner à cœur joie et oser davantage. Donc ça, c'est très agréable parce qu'on ouvre l'imaginaire des compositeurs parce que les interprètes n'ont pas peur de ce qu'on leur propose.
Et alors, par rapport à l'expérience que vous avez eue à l'IRCAM dans le cadre de Manifest, où vous avez fait de la formation, là, vous aviez abordé l'atelier d'orchestre. Est-ce que c'est très, très différent de passer d'un ensemble, d'un quatuor ou d'un quintet à cordes à un orchestre?
Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes compositeurs écrivent pour des solistes lorsqu'ils se retrouvent en situation de musique de chambre, s'ils écrivent pour des quatuors, des trios. Et même avec le chœur des Métaboles, qui sont encore des solistes, on a une écriture individuelle qui souvent est vertueuse. Mais lorsqu'un compositeur passe à l'orchestre, ce qui advient, c'est une division, je dirais, nécessaire du travail. On ne peut pas considérer que les 80 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, par exemple, ou n'importe quel autre orchestre, doivent être considérés comme des solistes. Il faut donc faire en sorte que les parties individuelles dans l'orchestre ne soient pas aussi virtuoses, mais qu'au final, on ait un résultat global qui donne l'illusion de la virtuosité. Et ça nécessite toute une réécriture de l'idée musicale en travaillant justement sur la combinaison des voix et le nombre accru de musiciens.
Alors, l'expérience que vous allez avoir à Grasse, qu'est-ce qu'elle va vous différencier un peu, ou vous avez une idée de ce qui peut vous différencier par rapport à ce que vous avez fait à Berkeley?
Je pense que maintenant la nouvelle musique, comme on dit, la new music ou la musique contemporaine, ça dépend comment on l'appelle, est partagée par beaucoup de gens dans le monde. Et c'est d'ailleurs pour cela que les compositeurs sélectionnés par cette académie viennent du monde entier. Mais je pense que ce qui peut changer, c'est un rapport à la partition. C'est-à-dire que, enfin, c'est du moins mon expérience, aux États-Unis, le rapport à la partition est différent du rapport à la partition et à l'écriture tel qu'il est cultivé en Europe. Par exemple, la tradition de musique improvisée, de musique de tradition orale aux États-Unis, puisque c'est là-bas quand même qu'on a inventé le jazz, est très très forte. Et l'idée de la communauté est aussi très importante. Donc, cela quand même diffère. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'improvisateur évidemment en Europe, mais il me semble que le rapport à la partition et à la tradition, donc puisque ce qui est écrit est aussi lié à la tradition, est différent. Peut-être que l'espace de spéculation que représente l'écriture est davantage prisé en Europe qu'aux États-Unis, indépendamment de la créativité de chaque compositeur. Moi, c'est la tendance que j'avais observée.
Voilà. Vous voulez dire qu'ils sont plus collectifs que nous, qu'ils soyons plus individuels?
Je pense qu'il y a une idée beaucoup plus forte, effectivement, de ce que c'est qu'une communauté et de la créativité dans une collectivité, effectivement, aux États-Unis, d'où l'importance du rythme, je pense, dans la musique américaine. Par exemple, toute cette élaboration sur le timbre est quelque chose de plus particulièrement européen. Donc, je pense que les grandes tendances et l'attention portée à certaines dimensions musicales viennent aussi de choses qui sont significatives du point de vue sociologique.
Merci.
Merci à vous.